Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. 2 heures d'émission, 10h30, 12h30, Parlons Vrai chez Bourdin. Parlons Vrai, il va falloir tenir. Il faut qu'on tienne la promesse, nous allons Parlons Vrai. Et nous allons Parlons Vrai avec vous, 0826 300 300. Évidemment, vous n'hésitez pas à réagir. Le jeudi, car nous sommes jeudi, sera un jeudi politique dans Parlons Vrai chez Bourdin. Tous les jeudis, jeudi politique sur Sud Radio. Tous les jeudis, 2 heures de politique, info, débat et vous, sur les grands sujets qui nous concernent tous et qui font débat. Et vous êtes très nombreux à réagir. Vous réagissez à l'actualité politique au sens large du mot, évidemment. 0826 300 300. De quoi allons-nous parler ce matin? De la crise de l'énergie en Grande-Bretagne. De plus en plus de Britanniques, des citoyens, des entreprises refusent de payer leurs factures d'électricité. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Dites-nous, 0826 300. Et puis, le climat, nous allons préparer un plan d'action, dit Elisabeth Borne. Nous verrons bien. Risque réel de pénurie de gaz, dit aussi Elisabeth Borne. Délestage tournant possible, dit-elle encore. On en parle ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Taxe sur les super profits. Mais très bien. Débat aussi, et nous débattrons de ce sujet entre 11h et midi. Mais qui fait des super profits? Total? Peut-être, oui. Total fait des super profits. Mais le commerçant, le restaurateur, qui a fait une très belle saison cet été et qui a vu son chiffre d'affaires progresser de 30, 40 ou 50% cet été par rapport aux 2 années catastrophiques précédentes. Est-ce qu'il a fait des super profits? Est-ce qu'il doit être taxé? C'est une question que je pose. Nous en parlerons évidemment. Session extraordinaire au Parlement pour débattre des mesures à prendre autour de l'énergie. C'est une demande de la droite, c'est une demande de la gauche, c'est une demande de l'opposition. Nous en parlerons. Conseil de défense autour de l'énergie demain autour du président de la République. Est-ce une opération de communication? Là encore, vous allez réagir. Conseil national de la refondation, boycotté par toutes les oppositions. À quoi sert ce Conseil national de la refondation? Faut-il un Conseil national de la refondation? Nous allons en parler dans un instant avec notre premier invité. Voilà, ces sujets et d'autres. Oui, il y en a un autre. Il y en a un autre qui vous fait réagir. La fuite de l'imam Iqiyoussen. Mais n'était-il pas surveillé, cet imam? Est-ce une humiliation pour la France? Nous en parlerons entre midi et midi et demi. S'il est en Belgique, la décision d'expulsion est inexécutable ou pas? Nous en parlerons tout à l'heure entre midi et midi et demi. Et là encore, vous allez réagir. Il est 10h34. Merci d'être avec nous. Commençons avec notre premier invité. Je vois déjà beaucoup d'auditeurs, Olivier, Bouchaïb, Horacio, qui sont là. Premier invité qui est Frédéric Valtoux. Frédéric Valtoux, bonjour.
Bonjour Jacques Bourdin.
Comment allez-vous, mon cher Frédéric?
Bien, et vous-même?
Porte-parole du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe, député de Seine-et-Marne. Frédéric Valtoux, je suis attentivement ce qui se passe en Grande-Bretagne. Parce que c'est un peu une sorte de gilet jaune à l'anglaise. Que se passe-t-il en Grande-Bretagne? De plus en plus de citoyens et d'entreprises refusent de payer leurs factures électricité ou gaz. Est-ce que vous pensez que ça risque de traverser la Manche?
D'abord, est-ce qu'on peut comparer la situation des deux pays à partir du moment où le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures, et notamment on en a voté certaines cet été, qui permettent effectivement d'amoindrir le coût de l'énergie pour les Français. Donc on est dans des situations qui sont différentes. On va pas faire de la politique fiction parce qu'on sait pas non. Très bien comment on veut évoluer les prix de l'énergie. On est sur une période effectivement d'extrême tension, mais on a un gouvernement qui a montré dès cet été qu'il réagissait.
Mais Frédéric Valtoux, je vous interromps tout de suite. Je sais, tout le monde me reproche et il coupe sans arrêt la parole. Oui, je coupe la parole, c'est vrai, parfois parce que je suis impatient de vous poser des questions claires. Risque réel.
Vous avez la réponse, mais bon.
Vous allez avoir la réponse, Frédéric Valtoux, je ne m'inquiète pas. J'ai écouté Elisabeth Borne, vous aussi j'imagine. Que nous dit-elle? Il y a un risque réel de pénurie de gaz. Quand un Premier ministre nous dit il y a un risque réel de pénurie de gaz, ça veut dire qu'il y a un risque et qu'il y aura une pénurie de gaz.
Et elle ajoute que l'objectif qui sera tenu, qui est vraiment l'objectif cardinal de cet engagement, c'est qu'il n'y ait pas de pénurie, de coupure pour les Français. Que peut-être pour les entreprises, mais en tout cas pour les Français, pour les ménages, pour les familles, il n'y aura pas de coupure. Donc ça veut dire que tout va être organisé dans les prochaines semaines et prochains mois pour que effectivement, quelle que soit la situation au cœur de l'hiver, ça ne pénalise pas les ménages. Ça, c'est important.
Mais alors, que dit-elle encore, Elisabeth Borne? Elle dit qu'il pourrait y avoir des délestages tournants. Ça veut dire qu'elle prépare l'opinion. Elle nous prépare à ces délestages tournants. Frédéric Valletoux.
Pas sur le gaz. Sur l'électricité. Elle l'évoque sur l'électricité. Aujourd'hui, reconnaissons qu'elle est honnête. Reconnaissons qu'elle est honnête.
Je suis d'accord. Elle est honnête.
Dit de manière très transparente, on est dans une zone de risque, on est dans une zone d'incertitude, on a un objectif, c'est qu'il n'y aura pas de coupure de gaz pour les Français et les ménages. Par contre, effectivement, sur l'électricité, il peut y avoir coupures. Mais on ne sait pas avec certitude. En tout cas, elle prévient, et peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y aura organisé ça dans les communes. Bon, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, reconnaissons-lui le langage de vérité.
Bien, Frédéric Valletoux, demain, il y aura un conseil de défense sur l'énergie autour du président de la République. J'ai entendu les oppositions, droite, gauche, nous dire encore un conseil de défense. Un conseil de défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le président de la République qui, avec ministres et experts autour de lui, décide ensuite des mesures à prendre pour faire face aux défis de l'énergie. Est-ce démocratique? Le président de la République qui seul prend la décision, est-ce démocratique?
Le terme conseil de défense ne doit pas effrayer. Il y a une réunion autour du président de la République pour dessiner la stratégie qui est nécessaire, la réponse à adapter, et si jamais il y a des mesures qui impliquent que la loi soit touchée, que le budget soit concerné, bien sûr que la représentation nationale, le Parlement, Sénat, Assemblée nationale seront saisis. Il ne s'agit pas de... Ce n'est pas parce qu'il y a un conseil de défense que tout d'un coup le président de la République a des pouvoirs extraordinaires, dérogatoires au jeu des institutions. Donc il appelle conseil de défense peut-être pour marquer le caractère d'urgence. Et c'est la question qui est urgente, ce n'est pas la réunion elle-même. C'est la question qui est posée à la France, c'est les enjeux qui sont posés à la France qui sont urgents et qui nécessitent une réponse. Donc on peut voir aussi la manière, on peut voir le sujet d'une autre manière en disant... voilà un président qui agit, il n'attend pas, il réunit les ministres intéressés, il réunit les administrations responsables, et puis il va sans doute prendre un certain nombre de mesures. S'il y a des mesures qui appellent à des évolutions de la loi, le Parlement sera saisi.
Mais Frédéric Valletoux, très bien, le Parlement saisi, doit être saisi, c'est ce que disent les oppositions, encore une fois, et la droite, l'extrême gauche, extrême gauche, enfin la gauche et la droite. On est bien d'accord, Frédéric Valletoux. Faut d'ores et déjà saisir le Parlement, réunir le Parlement et ouvrir un grand débat au Parlement sur ces questions énergétiques?
Alors, n'oublions pas que jusqu'au 8 août, le Parlement s'est réuni et on a eu, à travers le projet de loi sur le pouvoir d'achat, on a eu, à travers la loi de finances rectificative, des débats sur, effectivement, les enjeux autour de l'énergie. On a eu ces débats-là jusqu'au 8 août et les travaux de l'Assemblée reprennent dans quelques semaines. Je ne suis pas... c'est pas moi qui tiens l'ordre du jour de l'Assemblée. Le gouvernement décidera, mais... Il peut tout à fait ajouter, comme il le fait sur l'immigration d'ailleurs, un débat général dans quelques semaines. On ne prive personne de débattre. On en a débattu jusqu'au 8 août. Ça a été l'objet de longues soirées, de longues séances. Et l'Assemblée retrouve le chemin de l'hémicycle dans quelques jours. Donc, je ne pense pas qu'on soit la représentation nationale en mal de débat sur ces sujets.
Vous écoutez Frédéric Valletoux, vous voulez réagir, 0826-300-300. Frédéric Valletoux, j'ai une autre question. Grand débat, convention citoyenne, conseil de défense, conseil national de la refondation. Ça fait beaucoup, me semble-t-il. J'imagine les Français un peu perdus. Ce conseil national de la refondation, à quoi sert-il? Vous allez nous dire cela tout de suite, Félix Mathieu.
Oui, c'est une instance censée rassembler une cinquantaine de personnes, des associatifs, des syndicats, des experts, des élus locaux, la présidente du Haut Conseil pour le Climat ou encore le premier président de la Cour des Comptes. Alors, il n'est plus question, en revanche, de citoyens tirés au sort. En tout cas, Emmanuel Macron avait promis ce CNR à une semaine des législatives, un sigle chargé d'histoire. Évidemment, il n'a pas été choisi au hasard.
Le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris.
Voilà, le Conseil national de la résistance. Sauf que ce nouveau Conseil national de la refondation, eh bien, certains y voient plutôt ça.
Le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte.
Alors, toutes les oppositions, effectivement, ont déjà adopté la politique de la chaise vide du Rassemblement national à la France insoumise, en passant par les Républicains, les socialistes, les écologistes ou encore les communistes. En tout cas, pour le président LR du Sénat, Gérard Larcher, eh bien, ça empiète un peu sur les plates-bandes du Parlement. La CGT, de son côté, dénonce une mascarade de dialogue.
Et quel serait l'objectif de ce Conseil national de la refondation?
Alors, il y a quatre grands thèmes qui seront abordés dans une semaine à Marcoussis, dans l'antre du rugby français d'ailleurs. Le plein emploi, l'école, la santé, le bien vieillir et la transition écologique. À terme, selon Elisabeth Borne, ce nouveau CNR, il est censé intervenir en amont du travail législatif pour préconiser des réformes, mais aussi en aval pour accompagner la mise en œuvre des mesures.
Bien, Frédéric Valletoux, vous allez réagir. Nous allons parler de ce Conseil national de la refondation auquel ne participera pas Édouard Philippe. Vous allez nous expliquer pourquoi dans deux minutes. Un peu de pub, 10h42, vous êtes sur Sud Radio. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube où vous êtes près de 700 000 à nous suivre et sur Facebook en live tous les jours à 10h30. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et bien sûr continuez de nous écouter sur la FM et en DAB+. À tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Parlons Vrai, 0826 300 300, vous appelez évidemment, Frédéric Valletoux est toujours avec nous, porte-parole Horizon, du parti Horizon, le parti d'Edouard Philippe, député de Seine-et-Marne, Frédéric Valletoux. Edouard Philippe donc ne participera pas au Conseil national de la refondation du 8 septembre prochain, pourquoi ?
Bah, il participera pas parce que tout simplement il est prévu depuis longtemps qu'il soit au Canada à la même date et d'ailleurs dès que l'invitation lui est arrivée, la date avait été fuitée dans la presse depuis longtemps, mais on connaissait pas le tour de table de ce qui composerait ce CNR. Et dès que l'invitation est arrivée, il a appelé la première ministre pour lui dire que lui, malheureusement, il était retenu à l'étranger depuis longtemps. Enfin voilà, donc le parti Horizon siégera au CNR puisqu'on y a été invité, et c'est la maire d'Albi, Stéphanie Hirochemey, qui représentera le parti Horizon. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que vous voyez, il a tenu à ce que ce soit un maire, enfin une maire qui représente le parti. Il n'y a pas plus en phase avec les humeurs de la population qu'un maire. Et donc, le parti Horizon sera autour de la table.
Frédéric Valletoux, je vais vous poser une question franche et directe. Est-ce qu'Edouard Philippe croit sincèrement au CNR, au Conseil national de la refondation et à l'utilité de ce conseil ?
Je pense qu'il croit que toutes les occasions qui permettent effectivement d'essayer de faire converger des points de vue entre des parties prenantes, entre des acteurs du champ politique, du champ social, c'est une bonne chose.
Sauf qu'il n'y aura pas d'opposition.
Sauf qu'effectivement, entre la promesse de départ, ou l'intention de départ plutôt, et la manière dont les choses semblent se passer, on voit qu'il y a un décalage, puisque beaucoup de forces politiques ne seront pas présentes. Ce qui est dommage d'ailleurs, mais ce qui est dommage, parce que, enfin, je veux dire, en démocratie, on ne refuse jamais le débat, et la politique de la chaise vide n'est jamais bonne. Et il vaut mieux participer à un débat, quitte après à dire qu'il est faussé, qu'il n'a pas été au bout, que les conclusions ne sont pas les bonnes. Enfin, vous voyez, qu'on puisse avoir un exercice critique. Mais par principe, dire que sans même avoir reçu, puisque c'est aujourd'hui ou demain que les parties prenantes vont le recevoir, sans même avoir reçu ce que sera la feuille de route, l'organisation du débat, etc., de dire non par principe, en démocratie, c'est un peu dommage. Bon, mais bon. Vous voulez, on ne peut pas changer les hommes. Hein.
Bien, Bouchaïb est avec nous. Bouchaïb nous appelle de Chartres. Bonjour Bouchaïb.
Bonjour Monsieur Bourdin.
Oh là là, un problème de téléphone là, Bouchaïb. Vous savez ce qu'on va faire ? On va vous rappeler. Attendez. Allô, Bouchaïb ? On va vous rappeler. Oui, vous m'entendez mieux là ? C'est moi.
Je n'entends très bien, Monsieur Bourdin.
Bon, on va vous rappeler parce que la ligne n'est pas très bonne. On va prendre Olivier. Ne vous inquiétez pas, Bouchaïb. On vous rappellera. Olivier.
Oui, bonjour.
Bonjour Olivier, vous êtes en Dordogne.
Oui, tout à fait.
Bon, Olivier, que vouliez-vous dire sur ce fameux Conseil national de la refondation ?
Ben, je vais rebondir tout de suite sur ce qui vient d'être dit. C'est que je pense que les oppositions ne viennent pas parce qu'ils connaissent notre président. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait tout tout seul. Tous les gens de LREM, tous les députés le savent. Il n'y a que lui qui prend les décisions. Il avait l'Assemblée à sa botte pour faire ses décisions. Maintenant, ça a un peu changé, donc il essaye de s'organiser. Mais c'est toujours lui et il fera absolument ce qu'il voudra. C'est juste de la forme. Et ça, tout, même si les
politiques... De la forme et de la communication, dites-vous, Olivier.
Absolument. Et je vais vous dire, si même oui. des hommes politiques n'y croient pas, je vous assure que le peuple y croit encore moins.
Alors, question, Frédéric Valletoux, interpellation d'Olivier. Si les politiques n'y croient pas, une partie des politiques, comment voulez-vous que les citoyens y croient, Frédéric Valletoux ?
Enfin, j'aurais juste quand même rappelé, Olivier, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin, c'est que l'annonce de cette instance et de cette méthode de discussion, c'était avant le résultat des élections législatives. Donc, on ne vienne pas dire que c'est simplement une fois qu'on a connu les résultats des élections législatives et l'absence de majorité absolue que tout d'un coup, le président aurait sorti ça de son chapeau, ce qui est totalement faux. Effectivement, la période montrait qu'il y avait un besoin de faire discuter les gens, de faire essayer de trouver des points de convergence entre des acteurs politiques, syndicaux, etc. Et ça, c'était avant le résultat. Donc, l'engagement, il était pris bien avant qu'on connaisse cette configuration politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je redis ce que j'ai déjà dit, je le dis d'une phrase quand même, c'est toujours dommage en démocratie qu'on fasse un procès d'intention. On peut après critiquer si effectivement on dit oui, mais enfin on nous réunit pour rien. On nous réunit et puis le président va décider.
Vous
tout
pourriez
seul.
Le faire. Ça, le vous pourriez après. Le faire. Vous pourriez dire Frédéric Valletoux après, on nous a réunis pour rien.
Bah, on pourrait dire effectivement, on a travaillé pendant un certain nombre. Je ne sais pas comment on va être organisé les débats, mais on a travaillé pendant un certain nombre de temps et puis au final, on n'a pas été écouté ou on n'a pas été entendu ou on n'a pas été au bout du truc. Enfin, je veux dire, mais pas avant. Vous voyez, c'est dire le président, on le connaît et donc on n'y va pas parce que on le connaît. Mmh. On le connaît pas puisqu'il propose quelque chose de bien. Nouveau. Il faut jouer.
Bien, merci Olivier. Frédéric Valletoux. Je voudrais Frédéric Valletoux. Oui, juste avant de prendre Horatio. Et qui est d'Abrive-la-Gaillarde. J'avais une question. Édouard Philippe est toujours l'homme le plus populaire. Évidemment, il se prépare pour 2027. Ça ne fait plus aucun doute. On est bien d'accord.
Et Édouard Philippe a dit il y a un an, donc c'est pas un grand secret, qu'effectivement, il était important que le centre-droit construise une famille politique, construise un parcours, et qu'effectivement, il y a des rendez-vous politiques qu'il faut préparer, et que si on veut être crédible aux yeux des Français, il faut pouvoir effectivement présenter un projet, présenter des équipes, présenter des talents, et ça s'invente pas 6 mois avant les élections.
Bien. Horatio est à Brive-la-Gaillarde. Bonjour Horatio.
Bonjour monsieur.
Vous êtes à Brive en Corrèze, Horatio.
Oui, tout à fait.
Alors, vous vouliez parler de la facture de l'énergie, facture d'électricité, facture de gaz. Que vouliez-vous dire ?
Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, comment vous expliquer ? Sans être vulgaire, monsieur Macron nous a mis dans la merde, voilà.
C'est-à-dire ? Allez au fond de votre pensée.
Ben, je vais aller au fond de mes pensées. La guerre d'Ukraine, ça ne concerne pas les Français. Voilà.
Ça peut concerner les Français, Horatio. Attention. Hein.
Je ne crois pas, non.
Pas du tout. Vous moquez totalement de ce qui se passe en Ukraine.
Je suis avec le peuple ukrainien, mais ça, c'est politique. C'est... mettre en misère les peuples, et on va le voir cet hiver. Je pense que nous autres, nous allons en chier, parce qu'il y aura beaucoup de coupures. Et vous voyez, monsieur,
allez-y.
Toutes les augmentations qu'il y a eu, tout a augmenté. Vous allez faire les courses, vous voyez, c'est énorme. Le Français, quand il n'en peut plus. Il n'en peut plus, le Français. Un jour ou l'autre, ça l'a pété. Hein. C'est obligé. Quand les Français ne pourront plus se nourrir...
Je parlais de ce qui se passe en Grande-Bretagne, où la situation est beaucoup plus difficile qu'en France encore. Je parlais de ce qui se passait en Grande-Bretagne, où des citoyens, des entreprises ne paient plus leurs factures. Vous pourriez, vous, aller jusque-là, ne plus payer votre facture d'électricité ou votre facture de gaz ?
Mais c'est simple, monsieur. Quand j'aurai plus d'argent, je ne pourrai plus payer. Oui. Je pense que je ne serai pas le seul. Le problème, c'est pas que je peux ou pas payer. C'est que quand j'aurai plus d'argent, quand on ne pourra plus, on ne pourra plus. Voilà, c'est tout.
Frédéric Valtou,
ne veulent plus payer, ils ne pourront plus payer.
Frédéric Valtou, que répondez-vous à Horatio ?
D'abord, je voudrais quand même rappeler qu'on ne peut pas, comme ça, dire que ce qui se passe en Ukraine ne nous concerne pas. Ou alors, ça veut dire qu'on accepte que des chars roulent sur des peuples qui aspirent à la liberté et des chars dont on ne sait pas très bien où ils pourraient s'arrêter à partir du moment où on les laisserait faire. Donc, je pense qu'il y a déjà une responsabilité de peuples d'un continent qui partagent les mêmes valeurs. Il ne faut pas oublier ça. Nous, on vit dans la liberté on en est bien content. Et donc, ce qui se passe chez nos voisins, ça nous concerne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais juste qu'on rappelle en ratio que il n'y a pas que les Français qui sont concernés par l'impact de ce conflit, hein, en Espagne, Italie, toute l'Europe et dans bien des pays au-delà de l'Europe. Donc effectivement, la Russie est un grand producteur de gaz. La Russie alimente en gaz la plupart des pays européens. Il y a un conflit avec la Russie. La Russie ne fournit plus de gaz. Oui, ben, il y a un impact pour tous ceux qui, jusqu'à présent, étaient fournis par la Russie. Donc il y a un réajustement de l'approvisionnement à faire. C'est ce qui a commencé à être fait. Et il y aura sans doute effectivement des moments de tension. Enfin, je veux dire, on est capable, on est dans une société, on est solidaire, on est capable de surmonter des moments de coupure. Enfin, je veux dire, c'est pas la fin du monde si on organise des coupures tournantes d'électricité, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Je veux dire, on a vécu dans l'histoire des périodes bien plus difficiles et bien plus douloureuses, et on les a toujours surmontées.
Oui, et il y aura des coupures, hein. Bon, enfin, à moins que l'hiver soit extrêmement doux, mais il y aura des coupures.
Peut-être.
Bien, Horatio, merci. Frédéric Valtou, j'ai une dernière question avant de... Il est déjà 10h55, il nous reste 1 minute 30. Frédéric Valtou, les super-profits, faut-il taxer les super-profits ? Je disais tout à l'heure en introduction, il y a des grandes entreprises qui ont fait des super-profits ces derniers mois, mais il y a aussi des petites entreprises. Je pense à un restaurateur qui a vu sa saison d'été formidable et qui fait des profits de plus 30, plus 40% par rapport aux deux étés précédents qui étaient catastrophiques. Est-ce qu'il faut les taxer ?
En une minute, ma philosophie des choses, c'est plutôt effectivement, et je pense qu'à Horizon, on est tous sur la même longueur d'onde, essayons déjà, par la négociation avec les chefs d'entreprise, pour ceux qui sont concernés, d'obtenir peut-être des rallonges de salaire, et d'obtenir par la discussion, par la négociation, par la pression amicale, mais en tout cas par la négociation, qu'on puisse effectivement, s'il y a des profits supérieurs aux autres années, bah, qu'ils puissent être redistribués via les salaires. Avant d'envisager tout de suite l'outil de la taxation, je pense que dans un premier temps, on peut jouer de la négociation collective et de l'appel à la responsabilité.
Merci beaucoup Frédéric Valtou d'avoir été avec nous. Merci. Première demi-heure qui est passée très vite. Il est 10h56. Déjà, jeudi politique, tous les jeudis de la politique. Et je vous annonce pour jeudi prochain une belle affiche puisque Émeric Caron sera opposé à Robert Ménard. Confrontation jeudi prochain entre 11h et midi. Nous allons parler politique juste après le flash d'information, juste après 11h. Je vous rappelle 0 826 300 300. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Il est 10h57.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h02, merci d'être avec nous. Nous sommes jeudi et le jeudi, nous avons décidé d'ouvrir une longue page politique de 10h30 à 12h30. Tous les jeudis, nous ferons de la politique. Pourquoi ? Pourquoi faire de la politique ? Parce que personnellement, je crois en la politique, j'aime la politique et je pense que les Français adorent la politique. Il s'agit simplement de parlons vrai, il s'agit simplement de poser les questions, d'ouvrir des débats et d'écouter vos témoignages et d'écouter ce que demandent les Français. Donc jeudi politique sur Sud Radio, 2 heures de politique tous les jeudis, info, débat et vous, le 0826 300 300. Nous avons plusieurs invités ce matin. Véronique Louwagie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée Les Républicains de l'Orne. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Alexander Nicolet qui est président du groupe RN au Conseil régional de Centre-Val-de-Loire, du Centre-Val-de-Loire, directeur des jeunes avec Marine, c'est bien
bonjour
ça, bonjour,
c'est bien ça.
Merci. Et puis Marc Ferracci, qui est député de la 6e circonscription, député Renaissance de la 6e circonscription des Français de l'étranger, vice-président du groupe Renaissance. Bonjour.
Bonjour.
Marc Ferracci. Bon, les sujets d'actualité se bousculent. Ils sont nombreux. La crise de l'énergie, évidemment, sujet majeur, sujet numéro un. Vous avez vu qu'en Grande-Bretagne, de plus en plus de Britanniques, et j'en parle depuis hier parce que j'assimile ça aux gilets jaunes. Je vous explique ce qui se passe en Grande-Bretagne. On n'est pas suffisamment attentif à ce qui se passe ailleurs en Europe. En Europe ou hors de l'Europe, puisque la Grande-Bretagne est hors de l'Europe. Bien. En Grande-Bretagne, des citoyens, des entreprises refusent de payer leurs factures d'électricité ou de gaz. Et ces citoyens, ces entreprises sont de plus en plus nombreux à refuser de payer. Je me dis qu'il y a peut-être un risque en France devant l'augmentation du coût de l'énergie, de ces factures de gaz ou d'électricité. Nous verrons bien. Je ne lance pas un appel à ne pas payer. Je dis simplement attention, avertissement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a vaste débat autour de la manière dont on aborde ces problèmes d'énergie. Le président de la République a décidé de convoquer demain un conseil de défense consacré à l'énergie. Il va y avoir un Conseil national de la rénovation aussi, le 8, est-ce la bonne méthode? Les oppositions, que ce soit le RN ou la NUP, les oppositions et LR, demandent un débat au Parlement. Un grand débat au Parlement, suivi d'un vote ou pas, je ne sais pas. Il y aura, là encore, il y a débat autour de cette réunion du Parlement. Bien, il y a aussi en marge la fameuse taxe sur les super-profits. Est-ce qu'il faut taxer les super-profits? Et là aussi, je me fais une réflexion qui, me semble-t-il, est intéressante. On parle beaucoup de Total et des très grandes entreprises. Mais je me mets à la place du restaurateur qui a vu son chiffre d'affaires progresser de 30 ou 40% ces 3, 4, 5, 6 derniers mois. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces affaires vont mieux. Parce qu'avant, les deux années précédentes étaient difficiles. Est-ce qu'on doit le taxer ? Est-ce qu'on doit taxer son super profit ? Ça aussi, c'est un débat que je vais ouvrir avec vous. Enfin, il y a un autre débat que je voudrais ouvrir à la fin de cette heure, c'est la fuite de l'imam Iqiyoussen. Il n'était pas surveillé, cet imam Iqiyoussen. Moi, je suis assez surpris. S'il est en Belgique, est-ce que la décision d'expulsion est inexécutable? C'est aussi une question, nous allons débattre de cela. Bien, je voudrais commencer. Est-ce qu'il y a un risque, je vais commencer avec vous, Véronique Louwagie, est-ce qu'il y a un risque de désobéissance civile de la part des citoyens et des entreprises autour de l'énergie?
On sent une colère qui existe au niveau de nos concitoyens, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe au niveau de l'énergie. Ils ne comprennent pas ce qui se passe en termes de tarifs, de prix, hein, puisque nous assistons à des envolées des prix, et ils ont peur de la pénurie dont nous a parlé le gouvernement. Et derrière, nous constatons ici, je dirais, l'échec de la politique énergétique du quinquennat précédent, et je dirais des quinquennats précédents. Donc, effectivement, les Français ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi nous avons fermé Fessenheim. Pourquoi aujourd'hui nous remettons des centrales à charbon en route? Pourquoi la situation est celle que nous connaissons? Donc à partir du moment où il y a une incompréhension et qu'il y a de la colère qui existe derrière, il y a un risque. Donc le gouvernement doit assumer, doit reconnaître qu'il a fait des erreurs et doit remettre sur le devant de la scène un certain nombre de discussions relativement importantes. En fait, la question, c'est celle du nucléaire. Le nucléaire, c'est la seule énergie que nous maîtrisons. C'est la seule énergie que la France maîtrise. Vous pouvez faire en sorte de développer le nucléaire et de faire en sorte que nous ayons l'énergie française.
Oui, Véronique Louwagie, mais le nucléaire, on ne développe pas le nucléaire comme ça du jour au lendemain. Il y a des urgences à prendre aujourd'hui. Nous allons débattre d'ailleurs demain, je vous annonce qu'entre 11h et midi, nous débattrons autour du nucléaire. Alors, vous dites, il faut absolument... est-ce qu'il faut revenir sur la loi qui nous dit qu'il faut fermer, je crois que c'est 14 centrales nucléaires dans les années qui viennent. Réacteurs.
Si je me réfère à ce qu'a dit le président de la République, nous allons avoir de nouveaux réacteurs nucléaires. Mais
oui,
ça n'a été que des annonces.
Mais dans 10 ans.
Ceci n'a pas été commandé. Voilà. Oui. Mais je pense que quand
c'est
il y a une
beau
difficulté...
C'est bien de se réfugier, mais non, là, il y a une urgence.
Oui, alors, quand il y a une difficulté de cette nature, il faut avoir un raisonnement à moyen et long terme. Oui. Et vous avez raison, il faut avoir un raisonnement à court terme.
Alors,
à court terme, il faut apporter des réponses aux Français et les sécuriser.
Marc
Parce qu'on ne peut pas les laisser dans cette
Marc
situation.
Ferracci.
Bien, le débat est posé dans les bons termes. Il y a le court terme et il y a le moyen terme. À court terme, j'observe que sur le sujet de la protection du pouvoir d'achat des Français face à l'envolée des prix de l'énergie, au fond, vous le disiez en creux, Jean-Jacques Bourdin, la France fait mieux que ses voisins. La France fait mieux que ses voisins parce qu'elle a mis en place des dispositifs, et en particulier les dispositifs de bouclier tarifaire, qui sécurisent les Français. Alors, ce qui est vrai...
Sécurise pourquoi? Pour 2 mois? Pour 3 mois?
Et bien,
Par exemple, la baisse des carburants, 30 centimes, c'est 2 mois.
Oui, sauf qu'il ne vous a pas échappé que les prix du carburant commencent eux-mêmes à baisser. 10 centimes de moins dans la semaine qui vient de s'écouler. Donc, la logique dans laquelle nous avons voté le projet de loi pouvoir d'achat et voté le projet de loi de finances rectificative qui a mis plusieurs dizaines de milliards d'euros sur la table pour protéger le pouvoir d'achat des Français, notamment contre la hausse des prix de l'énergie, c'est une logique temporaire, précisément parce que nous sommes face à un choc temporaire. Et là, je rejoins Madame Louwagie, on a besoin d'avoir une réponse de court terme. Ensuite, sur le moyen terme et sur le long terme, sur la stratégie énergétique. Quand j'entends que la stratégie énergétique du quinquennat n'a pas été la bonne, j'observe simplement que cette stratégie, elle a été profondément refondée par le discours de Belfort qu'a prononcé le président de la République en février 2022. Qu'est-ce qu'il dit, ce discours ? Il dit qu'on ira jusqu'à 14 réacteurs nucléaires supplémentaires de nouvelle génération.
Oui.
Il dit qu'on va développer les énergies renouvelables, et notamment l'éolien, mais en mer, avec 50 parcs éoliens offshore, avec l'idée d'un mix énergétique qui soit équilibré. Et donc, il y a une vision. Il y a un enjeu de court terme, mais il y a aussi une vision.
Oui, mais nouveaux réacteurs, très bien, mais on va aussi fermer des réacteurs anciens.
Alors, sur ce sujet-là, soyons précis.
Soyons
précis, pourquoi ? Parce que une décision a été annoncée au début du quinquennat par le président de la République.
En 2018.
On appelle ça le grand carénage. Qu'est-ce que c'est le grand carénage ? Eh bien, c'est l'injonction faite à EDF de mettre en place une opération de maintenance profonde des réacteurs existants afin d'en prolonger la durée de vie. Et la prolongation de la durée de vie des réacteurs
existants passe par la fermeture de réacteurs.
Elle a été réaffirmée en février. J'observe que ce grand carénage a été mis en œuvre par EDF, a été mis en œuvre peut-être de manière...
Vous avez entendu ce qu'a dit le président
d'EDF. Oui, et justement, je vais y revenir, parce que c'est un point très important. Et pour terminer de répondre à ma collègue Véronique Louwagie, si on dit que durant ce quinquennat, la politique énergétique suivie n'a pas été la bonne, eh bien, je pense qu'il faut aussi qu'on remonte au moins un an en avant. En 2016, qu'est-ce qui se passe en 2016 ? En 2016, Areva est au bord de la faillite. La filière nucléaire entière est au bord de la faillite. On la recapitalise à hauteur de 5 milliards d'euros et on sauve Areva. Qui est ministre de l'économie à ce moment-là ? Qui est ministre de l'économie ? Emmanuel Macron. Donc, je pense qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. Je pense qu'il faut qu'on soit précis, y compris dans la genèse des faits. Et ensuite, on pourra parler de ce qu'a dit
Alexandra Nicolas. Je vais revenir sur le nucléaire après. Oui. Votre question initiale, elle est intéressante. Vous demandez, est-ce qu'il y a un risque que les Français ne paient pas ? Et en réalité, c'est de ça qu'a peur le gouvernement actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures d'urgence.
C'est pour ça que je mets le doigt dessus.
C'est pour ça qu'il y a
est-ce que le gouvernement a peur de ça ?
Avec aucune visibilité. Il devrait surtout se préoccuper de savoir comment les Français vont vivre dans les prochains mois et comment on va faire face à ça sur le long terme. Comment on va donner une vraie vision aux Français. C'est pour ça que nous, on propose une TVA à 5,5%, parce qu'au moins, c'est acté dans le temps. Là, effectivement, au 1er novembre, comment ils vont faire ? Mais vous pensez que le prix des carburants va diminuer ?
Sauf que la baisse de la TVA, c'est inégalitaire, vous le savez très bien. La baisse de la TVA, ça profite à celui qui a beaucoup d'argent et ça profite à celui qui n'en a pas.
Mais ça profite à tout le monde. Ça profite aux entreprises,
profite à tout le monde.
Ça profite aux Français et pour que tous les Français aient une visibilité. Mmh. Pourquoi on devrait payer en France plus cher le carburant que dans les autres pays ? C'est une anomalie quand même. Et ça, c'est la conséquence. Enfin, parce qu'il y a la TVA, mais il y a aussi les deux augmentations de la TICPE de 2017 et 2018. Quand vous dites que le carburant diminue, mais je vous invite à regarder, parce que moi, je mets du gasoil, vous voyez, par exemple. Bah, le gasoil, aujourd'hui, il n'est pas plus bas qu'il y a 2-3 semaines. C'est le samplon 95 qui a baissé. Et on sait que ces mesures-là qui vont être mises à partir d'aujourd'hui, elles sont provisoires, donc jusqu'au 1er novembre. Et ensuite, au 31 décembre, qu'est-ce qui va se passer ? On va arrêter les mesures ?
Non, en réalité, 10 centimes au lieu de 30.
Ça, c'est à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre. Peut-être plus rien. Donc ça, c'est des vies. Donc il va falloir trouver des mesures pour que les Français puissent vivre convenablement, parce qu'il n'y a pas de solution alternative. L'hydrogène aujourd'hui, vous avez besoin d'un vecteur d'énergie avec le gaz. Le gaz augmente, soit de l'électrolyse d'eau et le prix de l'électricité augmente. Vous voulez que les Français passent aux voitures électriques ? Vous parliez de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la recharge électrique, elle est plus chère que le carburant, que le gasoil en Grande-Bretagne. Donc on fait comment ?
Attendez,
je vous ai pas interrompu, monsieur.
Comment
un Français aujourd'hui qui vit dans la ruralité, 95% des Français qui vivent dans la ruralité ont un véhicule, souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont obligés d'utiliser leur véhicule pour aller bosser, pour amener leurs enfants à avoir des loisirs, pour les amener à l'école. Vous les privez tout simplement de vivre, en fait, sans solution alternative, parce qu'il n'y en a pas. J'ai parlé un tout petit moment longtemps sur le nucléaire, j'aurais bien aimé dire un mot.
Très vite.
Mais parce que on est en train de payer une politique effectivement sur du long terme. Emmanuel Macron, au début du quinquennat, il était contre, comme LR, il y a 15 ans, voulait diminuer la part du nucléaire. Et on est en train de payer ça aujourd'hui et ça nous rend dépendants à d'autres énergie. Je vous finirai tout à l'heure, si vous voulez.
Vous finirez tout à l'heure parce qu'il est déjà 11h13 et vous allez répondre, Marc Ferracci. Et puis Véronique Louwagie aussi, évidemment, le débat est engagé. Vous êtes sur Sud Radio, 0826-300-300. Venez vous mêler du débat. Je vous attends. Je vois Jean, qui est parisien, qui a envie d'intervenir. À tout de suite, 11h13.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h16, 0826-300-300, le débat est ouvert tous les jeudis de la politique sur l'antenne de Sud Radio. Nous parlerons vrai. Je donne la parole à Marc Ferracci. Allez, répondez à Alexander Nikolic qui vous a interpellé.
Je vais être très court, on a une divergence de vue qui est profonde. D'abord, vous pensez qu'il y a de l'argent magique. Une baisse de TVA, ça coûte très cher et surtout, on ne revient jamais dessus. Une baisse de TVA sur les produits pétroliers, ça passe dans les prix. Ça veut dire concrètement que les producteurs et les distributeurs, à un moment ou à un autre, augmentent leurs prix. Il y a énormément d'études qui le montrent. Donc vous dépensez de l'argent public et à un moment, ce sont les Français qui auront à le rembourser, pour rien. Ensuite, le deuxième point, et je m'arrêterai là, quand vous dites que rien n'est fait pour les Français qui sont dans la ruralité, c'est faux. D'abord, les mesures qui ont été annoncées, qui rentrent en vigueur d'ailleurs au 1er septembre, impactent très directement les gens qui vivent dans la ruralité. Et puis, sur le moyen terme, eh bien, des mesures sont d'ores et déjà en vigueur, je pense en particulier au bonus écologique. Je me suis occupé dans une vie antérieure de financer ce type de mesures. Elles marchent très très bien, ce genre de mesures. Il y a une mesure qui est dans le programme du président de la République et que la Première ministre a annoncé qu'elle serait mise en œuvre. C'est l'allocation de véhicules à 100 euros électriques pour les gens qui sont précisément dans cette situation de devoir utiliser leur véhicule, mais qui n'ont pas les moyens de basculer dans l'électrique. Donc il est faux de dire que rien n'est fait. Et surtout, il est faux de dire qu'on peut raser gratis et prendre des mesures extrêmement coûteuses qui pèseront sur le budget.
Ah, mais je voudrais que Véronique Louwagie réponde, parce que les 30 centimes, c'est LR qui le voulait, qui poussait. Vous avez accepté, c'est une alliance finalement entre La République En Marche, Renaissance.
Le mot est un peu fort peut-être, alliance. Mais en tout cas, nous avons obtenu effectivement que ces 30 centimes profitent à tous les Français, et notamment aux Français qui utilisent leur voiture tous les jours pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, pour se déplacer, pour aller chez le médecin. Donc les Français des territoires ruraux. Et nous sommes, je dirais, relativement fiers d'avoir obtenu ça pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Je voudrais juste revenir également sur mon collègue qui indiquait que sur la politique énergétique du précédent quinquennat, nous avons dénoncé la fermeture de Fessenheim. C'était une erreur de fermer Fessenheim alors que Flamanville n'est pas encore en activité. Il aurait tout à fait été possible de maintenir Fessenheim le temps que Flamanville débute, parce qu'effectivement, nous avons une vraie difficulté.
Oui, mais ce n'est pas Fessenheim qui est ouvert.
Après, concernant
la centrale ouverte
ou fermée,
ce n'est pas Fessenheim qui va résoudre les problèmes énergétiques de la France aujourd'hui.
Peut-être que nous n'aurions pas eu à remettre une centrale à charbon en route. Après, ce qui se passera à partir du 1er janvier, nous serons en tout cas très vigilants au niveau des députés Les Républicains pour que les Français soient encore protégés par rapport au prix de l'électricité, au prix du gaz, au carburant. Nous avons d'ailleurs défendu, obtenu une mesure sur le fioul qui n'était pas prévue initialement dans le projet de loi pour que, effectivement, les personnes qui se chauffent au fioul soient aidées. Et nous l'avons obtenu, je dirais, contre l'avis du gouvernement.
Ben voilà un travail parlementaire efficace alors. Si, bien, Alexander.
Non, sur le nucléaire, en deux mots, il faut juste quand même écouter ce que le PDG d'EDF, M. Lévy, peut dire justement sur les imprécisions qu'il y a pu avoir sur le long terme et sur le manque de visibilité où on leur a ordonné presque d'abandonner cette filière. Et donc il y a un manque de personnel, ce qui entraîne la corrosion est en train de subir sur un nombre de réacteurs très important, et ce qui fait que notre parc est inactif. Je vais vous répondre.
Sincèrement,
je vais aller très vite. Contrairement à ce qu'a dit Monsieur Lévy, des indications et des directives ont été données de manière très claire à EDF, précisément pour lancer ce fameux grand carénage que j'évoquais. Donc il y avait des directives.
Quand Monsieur Lévy
dit que tout a été fait pour démanteler la filière nucléaire, il dit quelque chose de faux. Il y avait des injonctions, il y avait des directives qui ont été données, et je constate qu'une partie des réacteurs qui sont à l'arrêt, j'en termine avec ça, le sont notamment pour des problèmes de corrosion, c'est-à-dire pour des problèmes de maintenance. Ces problèmes de maintenance sont de la responsabilité d'EDF. Donc je pense qu'il faut que chacun assume ses responsabilités, et en particulier le président d'EDF.
Alexander Nikolic, et ensuite Véronique.
Vous nous avez interpellé sur le fait qu'on rase gratis. Non, mais c'est à mourir de rire. Le dernier quinquennat, c'est le quinquennat où la dette a le plus augmenté. 600 milliards d'euros de dette supplémentaire, dont 250 milliards emprunter lié à l'inflation, alors qu'on avait des taux proches de zéro. Ce n'est pas de l'incapacité et de la mauvaise gestion, ça, mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, vous n'avez aucune vision sur le long terme pour essayer de faire des économies dans ce pays. Nous, chaque mesure qu'on a proposée...
Et quand vous avez des taux proches de zéro, c'est là qu'il faut emprunter, chaque mesure, cher monsieur. Non, ça, c'est de bonne gestion.
Mais non, je vous ai dit, vous les avez indexés à l'inflation et on va le subir là, cette dette-là.
Vous parlez d'une fraction infime de la dette.
250 milliards, ce n'est pas infime. Et sur justement le fait qu'on ne veuille pas...
250 milliards sur 2000.
Ce qu'on souhaite, nous, et je le répète, c'est toujours à chaque fois qu'on annonce une dépense supplémentaire qu'il y ait une recette. On l'a dit, c'est pour ça qu'on est pour la taxe super profit. C'est pour ça qu'on dit que quand on n'a pas travaillé 5 ans sur le territoire français et qu'on vient de l'étranger, il n'y a pas de prestation sociale. C'est pour ça qu'à chaque fois, et ça a été le cas pendant toute cette campagne, qu'on a proposé quelque chose, on a équilibré le budget. Ça n'a jamais été le cas du gouvernement qui a augmenté la dette. Bien. Et si au moins ça avait servi à quelque Bien. Chose. Mais notre balance commerciale n'a jamais été aussi
nous
faible.
Allons revenir sur les super profits. Nous allons revenir sur les impôts, les super profits. Voilà, Véronique Louwagie.
Juste une divergence très importante avec mon collègue qui indique que lorsque
collègue
vous voulez
RN,
une dépense oui. supplémentaire, vous voulez une recette supplémentaire. De notre côté, nous ne sommes pas du tout là. À dépense supplémentaire, nous voulons une économie, une dépense en moindre. Et en tout cas, c'est une grande divergence entre vous et nous,
évoqué,
parce que nous
économie.
Ne voulons pas lié, de prélèvement obligatoire. Non, nous ne voulons pas de prélèvement obligatoire supplémentaire. Voilà.
Ah non, on est pour baisser les taxes.
Concernant,
vous les avez
concernant
pas baissés sous Sarkozy.
EDF,
vous êtes
concernant
pas, vous êtes
EDF,
la TVA,
non, attendez,
vous plaisantez. Je vous ai laissé
parler, je ne vous ai pas interrompu, donc respectez également. Concernant EDF, là, il faudra que nous soyons très exigeants avec le gouvernement qui aujourd'hui va acquérir la partie de l'actionnariat privé qui lui restait. Il faudra que nous soyons exigeants pour savoir ce que le gouvernement veut faire avec EDF. Parce que jusqu'à maintenant, il était schizophrène finalement. D'un côté, il demandait à EDF de faire du résultat pour avoir des dividendes puisqu'il était actionnaire. Et de l'autre côté, il demandait à EDF de faire des efforts pour apporter un tarif contrôlé, réglementé, qui ne permet pas à EDF de faire des profits. Donc on a un vrai souci qu'il faudra et un débat que nous devrons avoir Bien. Avec le gouvernement parce que celui-ci n'a pas
Alexandre
été clair Nicolas. Sur les débats
Ferracci
précédents.
Marc Ferracci va répondre rapidement et je prends Jean qui est à Paris qui nous appelle.
Très vite,
Marc Ferracci.
Je pense qu'il faut qu'on avance. Ce débat, il est prévu. Vous le savez, il est prévu, il va avoir lieu.
EDF.
Le débat sur l'énergie. Je pense qu'il faut avoir un débat global. On ne peut pas avoir un débat uniquement
global,
sur
mais dans le débat, sur le nucléaire, dans le débat, il faudra que vous nous disiez à nous citoyens ce que vous voulez faire
bien
de l'EDF.
Voilà. Et j'escompte bien qu'au Parlement, parce que le Parlement fonctionne, d'ailleurs, nous en sommes la preuve vivante et tangible, on aura ce débat de manière très exigeante. Et je parle y compris au nom de la majorité, vis-à-vis du gouvernement. Mais sur ce sujet, on ne va pas refaire le match sur la nécessité de protéger les Français durant la crise Covid et la raison pour laquelle la dette a augmenté durant cette période. Je pense que si on ne l'avait pas fait, le pays serait dans un bien plus mauvais état qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Jean.
Bonjour.
Bonjour Jean, vous êtes parisien.
Oui, bonjour. Merci de me laisser parler. Une question sur les centrales nucléaires que je voulais poser. Moi, je suis chef d'entreprise. On a 57 centrales, 57 réacteurs.
56. Oui.
Et 36. On en a 38 à l'arrêt.
31
à l'arrêt.
D'accord. Quand on gère un parc de centrales, on n'arrête pas les centrales en fonctionnement tant qu'on n'a pas les nouvelles. Et donc, c'est incroyable qu'on ait autant de centrales à l'arrêt. Est-ce qu'on ne peut pas en remettre en route, sans prendre de risques, évidemment, mais c'est incroyable en mauvaise gestion.
Je comprends, vous êtes chef d'entreprise, je comprends très très bien, mais pardon, qui est responsable? Qui est responsable? Est-ce que c'est EDF qui est responsable?
Sans chercher la responsabilité.
Il faut toujours chercher des responsables, Jean.
J'aimerais qu'on les remette surtout en route.
Oui.
Ils trieront leur mail et ils nous diront qui c'est qui n'a pas envoyé le mail ou qui c'est qui n'a pas fait le bon courrier au bon moment, parce que ça va être ça. Ça va être mauvaise foi contre mauvaise foi.
Alors, Véronique Louwagie vous répond, parce que vous connaissez bien le sujet.
C'est une excellente question. Parce que pourquoi nous avons beaucoup de réacteurs qui sont arrêtés? Parce que nous avons des systèmes de détection aujourd'hui qui fonctionnent beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Et dès que nous avons une détection d'une micro-fissure, d'un micro-incident, Nous arrêtons, bien entendu, le réacteur et nous arrêtons également les réacteurs de même génération, tous les réacteurs de même génération. Et plus nous allons avancer dans le temps, plus nous allons probablement encore mieux détecter tous ces micro-incidents. Donc effectivement, la question est une bonne question. Est-ce que, à partir du moment où il y a un micro-incident détecté sur un réacteur, est-ce qu'il faut continuer à arrêter les réacteurs de même génération ?
Est-ce qu'il faut assouplir ? Est-ce qu'il faut assouplir les règles ?
Voilà. Et effectivement, c'est une très bonne question. Je sais que la Première ministre se la pose et qu'il faut la poser très rapidement.
Bien, Jean. Vous avez autre, si vous avez autre chose à dire, je vous prends juste après la pub. Alors je vous prends juste après la pub, ne vous inquiétez pas, vous serez à l'antenne. 0826 300 300, ça passe très vite, il est 11h26.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Jeudi politique, tous les jeudis nous ferons de la politique, nous écouterons les uns et les autres et vous interviendrez. 0826 300 300, comme Jean. Jean, vous vouliez dire autre chose?
Oui, c'était sur le prix de l'énergie et du mégawatt. 85% de l'énergie est produite soit par le nucléaire, soit par des centrales pétrole, soit par des énergies renouvelables, et 15% au gaz. Vous avez vu ça sur le site d'Engie. Alors, je ne comprends pas pourquoi on augmente 100% de la production, enfin le prix de l'énergie globale, alors que c'est seulement 15%, et pourquoi on est indexé sur ces 15% de gaz. Pourquoi on ne se sort pas de cet index et on redéfinit un index pour amener le prix, tout simplement, le prix de l'énergie. Oui. Ça évitera tous vos soucis de TVA que j'entendais tout à l'heure, ce sera beaucoup plus simple.
Vous êtes favorable ou à une baisse de la TVA?
Moi, je suis favorable pour un prix d'électricité correct.
Oui, bah ça
je
tous.
Je n'ai pas de raison de payer enfin, puisqu'on produit avec le nucléaire ou avec le pétrole, ou avec des panneaux solaires ou du photovoltaïque, ce que vous voulez, on ne comprend pas pourquoi on va payer 1 000 euros le mégawatt alors qu'il était à 85 euros l'année dernière.
Oui. Qui veut répondre à Jean? Personne? Véronique Louwagie.
Oui, alors effectivement, vous avez raison dans votre propos en disant qu'il nous faut revoir le lien qui peut exister aujourd'hui entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Nous avons un lien.
C'est vrai qu'il y a un lien qui est anormal.
Voilà.
C'est
normal, et aujourd'hui, il faut véritablement remettre ça sur la table parce qu'on se rend compte que notre dispositif ne fonctionne plus du tout. Il faut que nous revenions aussi, et là c'est une discussion que nous devrons avoir, un débat que nous devrons avoir à l'Assemblée nationale, avec ce que l'on veut faire d'EDF. Il faudra que le gouvernement viennent en soutien également à EDF, parce qu'on connaît sa situation financière, mais il nous faudra poursuivre aussi ces boucliers tarifaires. Nous ne pourrons pas, au 1er janvier en tout cas,
tout abandonner.
Je ne sais pas du tout ce que le gouvernement veut faire, nous ne savons pas du tout ce qu'il y a dans le PLF sur le sujet, mais en tout cas nous, les Républicains, nous soutiendrons des mesures pour soutenir et protéger les Français par rapport à la hausse des prix de l'énergie.
Évidemment, c'est grotesque.
Vous aussi, vous soutiendrez?
On soutient en tout cas qu'on sorte de cette indexation.
Non, attendez. Si les 30 centimes, là, quelle a été votre position?
Mais nous, on l'a dit, on veut des mesures pérennes. On ne veut pas que les Français...
Attendez.
Si ça passe, le Parlement
national n'a pas voté. Que vous ne vouliez pas des mesures pérennes. Je comprends très bien. Mais quand on propose une baisse de 30 centimes aux Français, vous dites non.
Mais on
faut la refuser.
Mais c'est pas ça. C'est qu'on dit qu'il y a une politique sur le long terme qui est menée, qui entraîne une augmentation du prix de l'énergie. Enfin, on peut parler des sanctions d'ailleurs par rapport à la Russie, parce que c'est quand même aussi la sanction. C'est quand même la conséquence. Cette augmentation de tous les produits énergétiques, c'est la conséquence de ces sanctions qui sont totalement inefficaces parce que les Russes ont augmenté de 40% leurs recettes. Donc à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a une résolution du conflit actuellement? Enfin, on peut quand même se poser la question de l'efficacité de ces mesures-là que les Français sont en train de payer.
Dans un autre débat. Les sanctions internationales, les conséquences en Russie, on ne va pas entrer dans ce débat-là.
Je vais vous répondre. Une entreprise, par exemple, elle a besoin de savoir sur le long terme combien elle va payer son électricité. Elle ne peut pas se dire, ah ben là, jusqu'au 1er novembre, je vais avoir 30 centimes, et puis ensuite, je vais avoir 10 centimes, et après, je ne sais pas trop. Baisser la TVA, baisser les taxes, baisser les charges sur une augmentation de 10% des salaires, ça permet aux entreprises d'avoir une visibilité, de recruter, de savoir combien ils vont dépenser en carburant. Je pense à plein de filières qui sont concernées.
Marc Ferracci.
Bon, sur ce point, pardonnez-moi, mais le marché de l'électricité, comme à peu près tous les marchés aujourd'hui, permet à ceux qui le souhaitent d'acheter pour une date ultérieure tel ou tel bien, et l'électricité notamment, à un prix déterminé aujourd'hui. Ça s'appelle les futures.
Ah oui, mais c'est inquiétant,
mais sauf que si votre sujet, c'est donner la visibilité aux entreprises, les outils existent déjà. Il faut quand même le savoir. Donc on ne peut pas raconter n'importe quoi et faire fi de ce qui existe déjà. là où je vous rejoins, c'est qu'on a besoin effectivement d'une réflexion globale sur la manière dont est régulé le marché européen de l'électricité, en particulier évidemment du lien qui existe au gaz. Aujourd'hui, pour le résumer très, très, très simplement, et sans doute de manière un peu trop simple, le prix du gaz a un effet sur le prix marginal de l'électricité, c'est-à-dire sur le mégawatt additionnel qu'on va commander.
Oui.
Il y a une réflexion qui a été engagée par la Commission européenne sur ce sujet. Moi, j'espère qu'ils vont aller vite et qu'ils vont revenir sur ces principes-là, mais dire que rien n'est pensé sur cet enjeu-là, c'est faux.
La réflexion est engagée, mais ça tarde. Hein.
Bien sûr, mais
pardon,
c'est pour ça que dans
Ferracci, il y a des urgences.
On a besoin de mesures d'urgence et on a parlé de ces mesures d'urgence pour les prochains mois.
Alors, l'attaque sur les super profits, puisque tout le monde agite cette taxe. Hein. Vous l'agitez, vous la voulez, cette taxe sur les super profits. Alors, vous appliquez cette taxe à qui ? Alexander Nikolic.
On l'a dit, à des entreprises qui ont dégagé plus de dividendes, donc pour leurs actionnaires.
Et on considère, uniquement et on les considère, entreprises uniquement.
Oui, il y a des entreprises qui profitent de la crise et qui font que les dividendes ont augmenté. On pense, évidemment, je vais être précis, on peut penser à Total. On peut penser, par exemple, et ça c'était de la responsabilité des Républicains, mais quand ils avaient privatisé les autoroutes, quand on voit les profits aujourd'hui de Vinci sur le dos des automobilistes, eh bien on peut se dire que ce type d'entreprises doivent être taxées. Nous, on est pour, évidemment, renationaliser les autoroutes, par exemple. Mais il y a des entreprises aujourd'hui qui dégagent des dividendes énormes quand les Français souffrent. On est pour baisser les taxes et les charges pour les PME, les TPE, pour les Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à payer leur carburant et pour augmenter ces
taxes. Une entreprise intermédiaire de 1000 salariés qui travaille dans un secteur qui marche bien, qui depuis 6 mois fait des bénéfices, de gros bénéfices, parce qu'il y a reprise économique, parce qu'on a passé 2 années très difficiles. Vous allez la taxer ou pas ?
Mais ça dépend si elle dégage beaucoup de dividendes. L'entreprise investit et que ça devient pérenne et que c'est bon pour l'économie française, et ben elle ne sera pas taxée. Mais il faut cibler justement.
Total,
c'est ça, c'est du pragmatisme.
Total qui fait des bénéfices, c'est bon ou pas bon pour l'économie française ?
Mais c'est de l'argent en plus pour des actionnaires qui investissent, enfin qui ont mis de l'argent dedans, et c'est donc des dividendes supplémentaires, et ça ne bénéficie pas aux Français. Nous, ce qu'on veut, c'est, on l'a dit tout à l'heure, on veut pas raser gratis. Je parlais tout à l'heure des 2 augmentations de la TICP en 2017 et 2018. Il faut comprendre que sur un plein, c'est 25 euros. Il faut que les Français qui nous écoutent là comprennent que si on revient sur ces 2 augmentations, ils paient leur plein 25 euros de moins. Eh bien, on préfère avoir une taxe de super profit.
Ça coûte combien ?
C'est 2 augmentations. C'est 2 augmentations, ben évidemment, c'est plusieurs dizaines de milliards. Mais sauf que justement, si on veut la compenser, ça passe par des taxes et des mesures exceptionnelles, parce que les Français ont besoin de mesures exceptionnelles quand ils ne peuvent plus vivre.
Véronique Louwagie.
Alors nous, du côté des Républicains, nous ne sommes pas favorables à cette taxe sur les super-profits.
Elle est demandée par le Rassemblement national, mais aussi par la gauche.
Hein. Oui, tout à fait. Peut-être
même par Isabelle Borne.
Voilà.
J'ai un doute.
Oui.
Nous ne sommes pas favorables à de nouveaux impôts. C'est notre règle. Les prélèvements obligatoires en France sont déjà nettement supérieurs aux prélèvements obligatoires qui existent dans les pays européens. Et nous voulons que les entreprises restent en France. Nous voulons que des entreprises reviennent en France. Parce que vous avez un vrai risque, à partir du moment où vous taxez encore plus, que les entreprises quittent la France. Voilà. Alors, en revanche, s'il y a des entreprises, comme on peut citer Total, puisqu'effectivement, Total a fait des super profits liés, je dirais, au marché de l'énergie, au marché du carburant. Il faut effectivement qu'il y ait de la redistribution, parce que effectivement, on ne peut pas admettre que d'un côté des actionnaires s'enrichissent et que de l'autre côté, les salariés ne le fassent pas.
Donc
il y a des dispositifs d'intéressement, il y a des dispositifs de participation qui peuvent être mis en place.
Les salariés ont beaucoup d'intéressement et de participation, il faut le savoir.
Oui, voilà, mais il peut y avoir encore des dispositifs. Et Total a sous la pression de cette taxe sur les super-profits, parce que les Républicains, nous avions effectivement maintenu une pression à un moment donné à accorder 20 centimes. 20 centimes, ça n'est pas rien, 20 centimes sur le litre de carburant.
Je vais essayer de tracer une voie médiane, mais
il y a une ambiguïté dans son discours.
Je vais essayer de tracer une voie médiane.
Oui.
Bon, moi, je suis économiste de formation.
Oui.
Moi, ça ne me choque pas que des profits qui ne sont pas issus d'une démarche d'innovation, d'une démarche de conquête de marché, d'une démarche visant dans l'entreprise à faire des gains de productivité, mais qui sont issus d'un choc exogène, comme les prix, soient taxés. Ce qu'on enseigne à nos étudiants quand on est prof d'économie, c'est qu'en général, les profits ont pour origine quelque chose de positif qui est la conséquence des décisions de l'entreprise. Là, ça n'est pas la conséquence des décisions des entreprises, mais c'est la conséquence d'un mécanisme de marché. Ça, c'est le principe. Maintenant, je vous rejoins, quand vous dites qu'il y a le principe et il y a la mise en œuvre opérationnelle. Quand j'entendais M. Nikolic dire, mélanger d'ailleurs, les profits, les bénéfices, les dividendes, tout ça, ce sont des choses différentes. Je pense que les chefs d'entreprise qui nous entendent doivent avoir un petit peu les oreilles qui sifflent. Très bien. Sachez que les entreprises qui versent des dividendes, ce sont des entreprises qui ont des actionnaires. Sachez que les actionnaires servent aux entreprises à se financer. Ce ne sont pas des grands méchants, les actionnaires. Ce sont des gens qui permettent aux entreprises de se financer. Quand vous vous immiscez dans la vie des entreprises, comme vous suggérez de le faire en disant, vous devez pas verser de dividendes, vous devez investir. C'est nous qui allons décider. Eh bien, vous êtes totalement à côté de la plaque parce que la vie des entreprises, c'est d'abord de laisser les entrepreneurs décider de ce qui est bon pour leur entreprise et de ce qui va faire croître l'emploi, de ce qui va leur permettre de distribuer, et là je rejoins Véronique Louwagie, de la valeur à leurs salariés, s'immiscer dans la vie des entreprises, c'est commettre des erreurs économiques. Et j'en terminerai en disant que, pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Jacques Bourdin, lorsque l'on crée des critères de type 20% de bénéfices, 30% de bénéfices, ce sont des super profits, c'est comme quand vous lancez un filet dérivant dans la mer. Vous attrapez des poissons qui ne sont pas forcément les poissons que vous aviez prévu d'attraper. Vous attrapez des entreprises qui innovent, des entreprises qui ont eu deux années mauvaises et qui ont la troisième des bénéfices. Et tout ça est profondément inefficace.
Bien. Très vite, Alexandre Nicolas, vous répondez. Et puis nous passons.
Une politique gaullienne, c'est justement parfois de se mêler justement de l'entrepreneuriat. Parce que si on avait fait un petit peu plus, comme par exemple en Allemagne, si on avait financé une modernisation de l'appareil industriel, eh ben on n'en serait pas là, vous voyez. Parce que aujourd'hui, on a un retard considérable. On a 2 à 3 fois moins de robots par unité industrielle que les Allemands, on est au niveau de la Slovénie. C'est ce qui explique par exemple que notre balance commerciale, elle va être en déficit de 100 milliards cette année. Vous voyez ?
Mais c'est là aussi vous mélangez tout. L'Allemagne ne met pas de taxe sur les super profits.
Je mélange pas tout. Par contre, je vais baisser la TVA sur les produits énergétiques. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Justement, c'est de la réindustrialisation. Ce qui permet, quand on peut parler d'écologie aussi.
On recrée l'emploi industriel en France depuis 3 ans, sachez-le.
Mais on a un déficit commercial comme on n'a jamais eu. Je rappelle que quand on parle de gaz à effet de serre, entre 50 et 60%, 51% l'année dernière, des émissions de gaz à effet de serre de ce pays viennent des importations. Mmh. Vos échecs en matière de relocalisation font qu'on pollue beaucoup plus aujourd'hui.
C'est faux. Non, c'est vrai. On recrée de l'emploi industriel et la France, j'en termine.
Mais alors parce pourquoi on recrée de l'emploi industriel parce donc on a un déficit commercial comme on n'a jamais connu
à cause des prix de l'énergie, justement, cher monsieur. C'est factuel. Depuis 3 ans, la France est classée première comme le pays attirant le plus d'investissements étrangers en Europe.
Mais on n'a jamais eu un tel déficit commercial.
Bien. Alors, maintenant, il est 11h41, on va observer une nouvelle pause, 0-826-300-300, et je vais vous poser une question sur la communication du gouvernement. Communication à travers un conseil de défense consacré à l'énergie, communication à travers un conseil de refondation, conseil national de la refondation. Vous n'irez pas
non, à
l'air,
pas du tout,
vous n'irez pas RN, la gauche n'ira pas, vous allez vous retrouver entre vous, Marc Ferracci.
Oh, c'est plus pratique.
À titre personnel, je n'y serai pas.
Et vous n'y serez pas, bon, on se demande qui va y être. Bien, nous allons en parler, 11h41, à tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Midi moins le quart, vous êtes sur Sud Radio 0826-300-300. Bien, il y a... une communication du gouvernement, du président de la République, une communication que les Français ne comprennent pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de communication. Alors, est-ce que les grands débats, depuis quelques mois, il y a des grands débats, il y a des conventions citoyennes, il y a des conseils de défense, il y a maintenant un conseil national de la refondation. Est-ce simplement de la communication, Véronique Louwagie ?
Mais écoutez, ce qu'on peut regretter, en tout cas, c'est que nous n'ayons pas eu de campagne des élections présidentielles de la part du président de la République.
Non, mais là, maintenant, on va pas revenir. Oui.
L'ensemble de ces sujets aurait pu faire l'objet de débats, parce que dans le cadre d'une campagne des élections présidentielles, nous débattons. Et moi, je crois que le président de la République n'a pas entendu le message des Français au moment des élections législatives. Parce que qu'ont fait les Français ? Ils n'ont pas donné une majorité absolue au président de la République. Parce qu'ils ne veulent plus d'une organisation verticale. Ils veulent qu'il y ait du débat
et
au sein du
Parlement. Un conseil
de
défense, c'est une organisation, un conseil de défense, un conseil de la refondation. C'est une organisation verticale. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui décide tout et ensuite Parlement entérine. Quoique le Parlement, il entérine moins facilement maintenant, puisqu'il est plus divers.
Mais le fait d'avoir ce conseil de défense sur l'énergie, déjà, on peut se poser une première question. Est-ce que l'énergie est un élément de sécurité nationale ? Puisque le conseil de défense, ça veut dire... Oui, alors, c'est une question qui peut se poser. Mais aujourd'hui, est-ce que ça l'est ? Première question. Deuxième question, il y aura un débat sur l'énergie à l'Assemblée nationale. Mais finalement, ce débat va être parasité à un moment donné. Parce que nous aurons eu un Conseil national de la refondation, parce que nous aurons eu ce Conseil de défense, parce que nous aurons eu un certain nombre de débats. Les Français ont voulu que le Parlement ne soit pas à l'image d'une verticalité telle qu'elle existait. Donc, il faut donner au Parlement tous ses pouvoirs. Et le Parlement devrait être saisi en premier sur ces sujets.
Bien. Que dites-vous, Alexander Nikolic ? Alors, mais si que dit le Rassemblement national ?
Mais nous, on demande que très rapidement, donc dès septembre, il y ait des débats à l'Assemblée sur ces sujets-là. Parce que,
il y en aura, j'imagine.
Parce que les Français aient une visibilité, justement. Mm. Parce que c'est ces échanges-là qui vont peut-être permettre au gouvernement de nous entendre et de faire ce qu'ils ont fait déjà depuis quelque temps. Ils viennent de nous suivre sur la redevance. Ça fait partie des annonces du 1er septembre également. Mm. Suppression de la redevance. Il ne fallait pas en entendre parler. Maintenant, il y a un changement d'avis. Les super profits, il ne fallait pas en entendre parler. Elisabeth Borne dit qu'il faut hésiter. L'indexation des retraites sur l'inflation, il ne fallait pas en entendre parler, c'était grotesque. Maintenant, effectivement, le gouvernement veut revenir dessus. Donc, sur énormément de sujets, le gouvernement prend conscience, mais trop tard, qu'on avait raison. Le nucléaire, c'est pareil. Emmanuel Macron a changé du tout au tout en 5 ans. Eh bien, sur tous ces sujets, on est source de propositions et on aimerait que ces débats-là aient lieu à l'Assemblée, qu'ils nous écoutent et qu'ils soient un petit peu
donc
dans l'obligation
pour vous,
de voir que notre bon sens, mais des débats fermés comme ça, on ne pourra pas être entendu. Et nous,
si vous n'allez pas au Conseil de refondation, vous ne serez pas entendu,
mais
ça c'est sûr.
On veut que notre parole soit prise en compte et pas qu'il y ait une forme d'hypocrisie où il y ait en vase clos des discussions et que ce soit décidé uniquement par Emmanuel Macron.
J'ai l'impression, le président de la République n'a fait que de la communication dans tout ça.
Je pense qu'il faut essayer de préciser un petit peu les choses parce qu'on mélange ici, je suis désolé de vous le dire,
allez-y.
De leur finalité. Conseil de défense énergétique est un conseil qui s'apparente au conseil de défense sanitaire qu'on avait durant la crise Covid, qui est destiné à gérer des situations de crise ou d'urgence. La grande question, et là je rejoins mes collègues sur ce sujet-là, c'est de savoir si, au sortir de ce type de conseil, les décisions sont prises de manière verticale et unilatérale. S'agissant du conseil sanitaire, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a eu 13 projets de loi qui ont été discutés au Parlement et votés sur ces questions sanitaires. Le dernier, en juillet, nous étions dans l'hémicycle, chers collègues.
C'était pas le même Parlement.
Nous étions dans l'hémicycle, chers collègues. Ça signifie que ça ne veut pas dire qu'on fait un conseil de défense qui soit sanitaire ou énergétique. C'est pas parce qu'on fait un conseil de défense sanitaire ou énergétique que derrière, il n'y a pas de débat au Parlement sur des textes. Dans ce type d'instance, de cénacle, le gouvernement et le président définissent une stratégie. Ensuite, il y a de la concertation, et il y aura aussi des débats au Parlement. Votre chef, Marine Le Pen, a demandé à ce qu'une session extraordinaire soit convoquée, après l'avoir refusée en juillet quand même, et en mettant de côté le fait que c'est pas parce qu'il y a une session extraordinaire, ou plutôt parce qu'il n'y a pas de session extraordinaire, que le Parlement ne travaille pas. Dans les prochains jours, il y aura des auditions de ministres sur les questions énergétiques. Je vous invite à venir, tous les députés, pas simplement ceux de la Commission des affaires économiques, sont conviés. Donc, le Parlement travaille, même quand il n'y a pas une session extraordinaire. Le Conseil de défense énergétique est là pour tracer des orientations qui seront ensuite discutées. Donc ça, il faut être très clair sur ce sujet. Et s'agissant du Conseil de la refondation, j'en termine, c'est une instance qui a un objet différent, avec une perspective de long terme, et pas une perspective d'urgence. Il faut remettre les choses à leur place et dire que chaque objet a sa finalité propre.
Bien. La fuite de l'imam Iqiyoussen. Il serait en Belgique, j'emploie le conditionnel parce qu'on ne sait pas, franchement, Marc Ferracci, la France n'est-elle pas humiliée dans cette affaire ?
Parce que l'imam Iqiyoussen, avant que la décision du Conseil d'État ne soit tombée, serait parti en Belgique. La France est humiliée.
Je vous pose la question. Dans cette affaire, est-ce que la France n'est pas humiliée ?
Quelqu'un qui n'a pas encore été condamné, qui n'a pas encore été frappé d'une décision de justice définitive, qui décide son expulsion, je le dis tranquillement, n'a pas vocation à être surveillé par les services de police en France. Si on l'avait fait, qu'est-ce qui se serait dit ? Tout le monde aurait dit, on utilise les services de police pour surveiller quelqu'un alors qu'aucune décision ou condamnation ne pèse contre lui, on instrumentalise les moyens policiers à des fins de politique politicienne pour faire des médias autour de ça. Ça aurait été incompréhensible. Donc moi, j'assume, et je pense que la majorité aussi assume le fait, que tant qu'on n'est pas condamné, on n'a pas vocation à être surveillé par les services de police, sachant que certains individus sont surveillés, quand ils présentent un risque lié au terrorisme, par exemple, un risque de commettre des délits extrêmement graves.
Il ne présentait aucun risque, cet imam Iqiyoussen ?
De ce registre-là, je ne sache pas que l'imam Iqiyoussen soit accusé de terrorisme. Il est accusé de tout un tas de choses. Et moi, je suis très content qu'il ait quitté le territoire national. Et je pense qu'il n'y a que le résultat qui compte. S'il a quitté le territoire national, eh bien, il ne pourra pas y revenir. Et le ministre Gérald Darmanin l'a dit, s'il revient, il sera mis en centre de rétention administrative immédiatement. Donc, on peut se féliciter du fait qu'il ait quitté le territoire national. C'est un type qui a proféré des propos antisémites à de nombreuses reprises, qui a promu la soumission de la femme à l'homme, qui n'a aucunement sa place sur le territoire national. Il n'y est plus, je m'en félicite.
Véronique Louwagie.
La Première ministre parle de transparence depuis quelques jours. Je crois qu'il faut être transparent de manière très claire avec les Français. Où est aujourd'hui cet imam ? Parce que là, on nous parle beaucoup au conditionnel.
Il n'est pas au Maroc, donc, dans tous les cas, puisque le Maroc n'en veut pas.
En tout cas, je pense que les Français sont en droit d'attendre des précisions sur véritablement la situation aujourd'hui géographique de cet imam. Après, sur cette question d'absence de surveillance, non. C'est quand même, je ne veux pas croire que les services de renseignement, les services de protection qui protègent les Français n'utilisent pas tout leur dispositif pour surveiller un certain nombre d'individus qui, pour autant, ne sont pas condamnés. Ça existe, je dirais, pour préparer des interpellations, pour, je dirais, des filatures, ça existe. Et heureusement, parce qu'il y a des personnes qui doivent, nous devons arriver à mettre des personnes devant un certain nombre de leurs situations. Donc finalement, ce qui arrive là, c'est quand même aberrant. Je pense qu'un certain nombre de Français ne comprennent pas que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une surveillance en l'attente des dispositifs qui sont ceux que nous connaissons.
Alexandre Nicolet.
Ça a un côté pathétique. Enfin, Gérard Darmanin, il a voulu communiquer et se servir de cette affaire pendant l'été pour montrer qu'il était très dur avec l'islamisme. Il faut se rappeler que ça fait 20 ans que cet imam a des déclarations qui sont plus que limites. Enfin, je veux dire, évidemment, des propos antisémites. Il dit que les femmes doivent rester à la maison, se voiler, se soumettre à leurs hommes. Il souhaite que les moudjahidines l'emportent en Syrie, en Palestine. Et il a des déclarations qui vont quand même dans ce sens systématiquement. Mais ça fait 20 ans qu'on trouve qu'il n'y a aucun problème, alors que ces vidéos sont vues par des millions de personnes sur YouTube. Et derrière cette expulsion, il y a quand même le fait qu'il y a eu des signatures de personnes qui ont soutenu, donc quelque part qui soutiennent ces propos. Il y a des milliers de signataires, il y a plusieurs associations musulmanes qui soutiennent cet imam, donc ça doit nous interpeller sur l'influence qu'il peut y avoir, et il va falloir regarder ce que proposent ces associations musulmanes, donc islamistes, et il va falloir vraiment qu'on prenne conscience de ce problème-là, qu'il y a un vrai problème de fond. Et ce ridicule sur le fait qu'on cible une personne, donc on ne soit même pas capable de le surveiller et de pouvoir l'expulser ensuite, ça montre l'incapacité du ministre de l'Intérieur et l'incapacité de notre gouvernement à faire appliquer des décisions malgré une surcommunication sur ce sujet.
Écoutez, moi je ne vais pas redire ce que je viens de dire à l'instant. Cet individu a quitté le territoire national selon toute probabilité. En tout cas, c'est les informations qui ont été communiquées par le gouvernement.
En fait, il s'est appliqué la décision d'expulsion.
On peut dire les choses comme ça. On peut dire les choses comme ça. C'est le résultat qui compte. J'attire votre attention quand même sur le fait que les expulsions continuent. Il y en a eu 700 dans l'année qui précède. Et que des résultats sont obtenus aussi parce que la loi a changé. Parce que la loi a changé, et en particulier la loi séparatisme, ou la loi qui renforce les principes de la République, que je crois votre groupe n'a pas voté. Donc il faut être quand même assez clair sur ces sujets-là. Des choses sont prises, des décisions sont prises, elles sont exécutées, le résultat est là, l'imam Iqiyoussen a quitté le territoire national. Ensuite, sur le fond, je vous rejoins, il ne doit pas y avoir d'angélisme vis-à-vis de la progression du communautarisme, vis-à-vis de la progression du salafisme, vis-à-vis de la progression de tous ces individus et de ces groupes sociaux et de ces associations qui visent à saper les fondements de la République. Mais quand même, j'introduirai une nuance par rapport à ce que vous avez dit, c'est que tous les musulmans ne sont pas sur cette ligne.
J'ai jamais dit la ça.
Conférence,
mais ça rigoler,
la conférence. J'ai introduit la nuance. Laissez-moi terminer si vous le voulez bien. La conférence des imams de France a salué la décision du Conseil d'État. Et moi, je veux retenir ça. Cette décision, elle est interprétée par la conférence des imams de France comme une décision de protection des musulmans de France
Et ça vous interpelle pas sur les autres associations. Et je vais juste dire, cet imam, il était surtout influent sur les réseaux sociaux, en fait, sur YouTube et tout. Et vous pensez qu'en Belgique, il va pas continuer à être influent? Il se moque de nous.
Mais dans ce cas-là, poursuivez votre raisonnement au Maroc, il y a les réseaux sociaux également.
Sur les 700, il faudrait peut-être limiter cette influence-là, non? Et sur les 700 expulsions, mais enfin, vous savez très bien que c'est souvent des clandestins qui ont commis des actes d'insécurité. Et malgré des faits d'insécurité graves parfois, même pour des clandestins, ils restent sur notre territoire où, quand ils sont expulsés, ils reviennent.
Donc merci beaucoup.
Ne reviendra pas.
Mais voilà. s'il est en Belgique, je pose simplement la question, Belgique, est-ce que la décision d'expulsion est inexécutable? Je pose la question.
Sur la coopération de ces pays européens.
Je ne sais pas. On va poser la question entre midi et midi et demi sur l'antenne de Sud Radio. Il est 11h56. Merci madame, merci messieurs d'être venu nous voir ce matin, c'était passionnant. Merci. C'est un jeudi. Nous sommes jeudi politique sur Sud Radio, 11h57.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Nos dernières minutes, dernière demi-heure jusqu'à midi et demi. Retrouvez l'émission en podcast sur sudradio.fr, sur notre application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube où vous êtes près de 700 000 à nous suivre et sur Facebook en live tous les jours à 10h30. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et bien sûr continuez de nous écouter sur la FM et en DAB+. Voilà. 0-826-300-300 aussi vous appelez pour intervenir. Cette dernière demi-heure sera consacrée à l'imam Iqiyoussen. Mais où est-il passé cet imam Iqiyoussen? Il est parti, il a précédé son expulsion, il est parti. Certains pensent qu'il est en Belgique, il n'est pas au Maroc, apparemment, puisque le Maroc n'en veut pas. Nous parlons de l'imam Iqiyoussen. Est-ce que la France a été humiliée dans cette affaire? Nous en parlons dans deux minutes après la pub, 2h08.
Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, il est 12h11, parlons vrai, 0826-300-300. Nous allons parler de l'imam Iqiyoussen. Mais où est passé cet imam? Félix Mathieu, vous avez regardé les dernières informations, il demeure introuvable, alors que le Conseil d'État a donné avant-hier le feu vert à son expulsion. Où en est-on?
Alors, il est introuvable en France, effectivement, il pourrait bien avoir fui en Belgique. Hein, c'est le scénario privilégié par les autorités. Alors, la police ne l'a pas trouvé, en tout cas chez lui, à Lourches, dans le Nord. La préfecture se défend de tout manquement. Elle estime avoir déployé des moyens proportionnés pour surveiller son domicile. Surtout, dit-elle, que l'imam aurait pu se trouver n'importe où ailleurs. Pas de loupé, c'est aussi d'ailleurs ce que disait tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur CNews.
Ça peut paraître étonnant, mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur d'une dictature. C'est-à-dire qu'avant que les gens soient condamnés, avant qu'il y ait des décisions de justice, le ministère de l'Intérieur ne peut pas utiliser des moyens extraordinaire qu'on utilise
et
contre les grands délinquants.
Quand même.
Je ne sais pas si vous connaissez le nord de la France. Là où habite M. Iqiyoussen, c'est à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de la Belgique.
Alors désormais, le ministre de l'Intérieur entend communiquer toutes les informations sur l'imam Iqiyoussen aux autorités belges avec un but, l'empêcher de revenir en France. Gérald Darmanin n'a pas évoqué en revanche une quelconque action de la France pour demander aux Belges de le rechercher.
Et que dit le Maroc? Parce qu'il est marocain.
Oui, eh bien de toute façon, l'expulsion semblerait effectivement compromise, hein, même si on l'avait trouvé chez lui, puisque ce rebondissement complique la donne. Le Maroc a suspendu hier le laissez-passer consulaire d'Hassan Iqiyoussen. Il est pourtant effectivement de nationalité marocaine, mais le Maroc dénonce le manque de coopération des autorités françaises, même si un site proche du gouvernement marocain évoque plutôt une raison officieuse, une mesure de rétorsion du Maroc face à la baisse du nombre de visas accordés par la France.
Débat, vous avez des remarques à faire autour de cette fuite de l'imam Iqiyoussen, vous n'hésitez pas, 32-16, ça c'est un vieux numéro. Hein. 0826-300-300. Serge Slama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Merci d'être avec nous. Serge Slama, finalement, l'imam s'est expulsé tout seul.
Pas tout à fait. D'abord, je suis professeur à Grenoble désormais.
Ah, vous êtes à Grenoble, oui, c'est vrai. C'est vrai, Serge. Oui,
oui. Cet imam, en fait, il ne s'est pas expulsé tout seul, il a exécuté la mesure d'éloignement. En fait, il y a l'objectif d'une mesure d'éloignement telle qu'une expulsion, c'est que la personne, l'étranger, quitte le territoire français. Et donc, la personne peut quitter le territoire français par tout moyen. C'est ce qu'il a fait. Il a exécuté la mesure. Il n'est pas en infraction. Il n'est pas délinquant, comme l'a affirmé le préfet du Nord.
Oui, mais Serge Lama, il est parti avant même que le Conseil d'État décide. Peut-être.
Ça, on ne sait pas. Mais
on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas.
Bon, et de toutes les façons, ça ne change rien. C'est-à-dire, oui. À partir du moment où il avait un arrêté d'expulsion, le Conseil d'État a confirmé la légalité de l'arrêté d'expulsion en référé liberté. Il a choisi de partir. Alors après, il se pose la question de son statut en Belgique, mais c'est un problème belge, c'est plus un problème français. Du point de vue français, l'affaire est réglée.
Est-ce qu'il peut revenir en France ?
Non, l'arrêté d'expulsion a pour effet d'interdire l'entrée sur le territoire français. On a un cas célèbre, hein, Daniel Cohn-Bendit, qui, suite à son expulsion en 68, ne pouvait pas revenir en France jusqu'en 78.
Donc l'imam Iqiyoussen ne peut pas revenir en France aujourd'hui ?
Non, il ne peut pas revenir en France, sauf si son arrêté est abrogé.
Bien. Le Maroc n'en veut pas, Serge Slama.
Alors ça, c'est moins clair que le Maroc n'en veut pas. En tout cas, le Maroc a retiré le laissez-passer consulaire qu'ils avaient délivré aux autorités françaises. Mais ça ne veut pas dire que dans l'avenir, ils n'y vont pas à nouveau laissez-passer consulaire aux autorités belges ou françaises.
Et c'est tout de même un geste de rétorsion de la part du Maroc.
Un laissez-passer consulaire, il y a une dimension diplomatique. Vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés d'avoir des laissez-passer consulaires pour l'Algérie, oui, ou pour le Mali, par exemple.
Oui.
C'est accepter le retour d'un de ces nationaux. Et donc, évidemment, il y a une dimension diplomatique. Les Marocains l'utilisent comme un instrument diplomatique. Les Français le font aussi, hein, dans le sens.
Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il est parti. Est-ce que, pour vous, la France est humiliée dans cette affaire, comme le disent beaucoup d'observateurs politiques?
Moi, je trouve que cette affaire est montée en épingle. Je suis désolé.
Allez-y.
Moi, j'ai aucune sympathie pour des personnes qui tiennent des propos antisémites ou machistes. Hein. Je pense que vous le savez.
Oui, je le sais. Je le sais.
Voilà. Donc, mais il a tenu ses propos, à ma connaissance, entre 2004 et 2014. Donc, à l'époque, le ministre de l'Intérieur de l'époque, ou le président de la République, aurait pu décider soit des poursuites pénales via le parquet, soit éventuellement déjà un arrêté d'expulsion. Et la loi date de 2003, hein, c'est la loi Sarkozy qui permet cette expulsion.
Oui.
Ça n'a pas été fait, je ne sais pas pourquoi. Il semble que Darmanin, d'ailleurs, fréquentait cet imam, d'après une enquête de Mediapart. Là aussi, moi, je n'ai pas d'éléments plus précis que ça. Hein, et je ne sais pas pourquoi, tout à coup, au moment du renouvellement de sa carte de résident, il devient l'ennemi public numéro un. Il faut absolument qu'il quitte la France. Ses propos sont insupportables. Et le ministère de l'Intérieur disait que même si le Conseil d'État avait censuré l'expulsion, il aurait changé la voie pour que ça soit possible. Vous voyez bien que, enfin, ici, c'est une affaire qui est montée en épingle.
Vous voulez dire quoi, Serge Slama ? Vous voulez dire que le gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur, aurait choisi volontairement de monter cette affaire, opération de communication ?
C'est pas nouveau. Charles Pasqua avait fait pareil avec Follembré. On oublie les expulsés de Follembré qui a été expulsé au Burkina Faso à l'époque, au moment des attentats. Il y a aussi l'affaire d'Imam Bouziane avec Nicolas Sarkozy. On l'a oublié, mais il y a eu une affaire un peu...
Oui, mais Serge Slama, d'accord, peut-être, mais les propos tenus par cet imam étant inacceptables, est-il logique qu'il soit expulsé ?
Non, à l'époque, oui. Enfin, franchement, si une expulsion avait lieu entre 2004 et 2014, ça me paraissait difficilement contestable. Mais pourquoi le faire en 2022 ? Donc, depuis 8 ans, cette personne, c'est un indésirable, et pourtant, les autorités françaises n'ont pas agi. En quoi aujourd'hui c'est une personne dangereuse pour la France, c'est ça qui est problématique. Le Conseil d'État dit juste parce qu'il y a des vidéos qui restent en ligne.
Bien.
Vous voyez bien que c'est pas sa responsabilité.
Bien, Serge Slama, nous allons prendre Luc et Jean-Pierre, deux auditeurs. Luc est au Perreux-sur-Marne. Bonjour Luc.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous.
Je vous en prie, c'est toujours un plaisir.
Allez-y Luc.
Vous demandez si la France est humiliée. La France est humiliée peut-être, mais c'est surtout les Français qui...
Allô. Coupure, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Nous allons rappeler Luc et Jean-Pierre, qui est là aussi à Clermont-Ferrand. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Jean-Jacques. Très heureux de vous retrouver sur Sud Radio.
Moi voilà. Aussi Jean-Pierre. Très heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps.
C'est ça. Et donc, mon point de vue, moi, c'est que j'ai compris aussi un petit peu comme un des précédents interlocuteurs, c'est que cet imam a jeté un peu la perturbation dans les relations diplomatiques entre la France et le Maroc notamment, mais également par ricochet avec Israël, parce qu'il était surtout soupçonné de tenir des propos antisémites. Et comment voulez-vous que le Maroc accepte son retour, sachant qu'il vient de passer il y a quelques mois des accords intéressants avec le Maroc? Donc c'est
avec Israël.
Avec Israël. Oui. Donc c'était pas possible, et donc ils ont trouvé des subterfuges pour que discrètement ils soient écartés du territoire, de manière à ce que nous on s'en tire pas trop mal. Et puis après, à lui de se démerder pour se planquer ailleurs, sachant qu'il peut pas rentrer au Maroc. Voilà.
Serge Slama.
Pardon.
ça me semble relever un peu de la théorie du complot. Enfin, l'antisémitisme est contraire au principe républicain. Enfin, je vois pas ce que les Israéliens viennent faire dans cette affaire, quoi.
Oui. Oui, non, mais c'est l'attitude du Maroc. Jean-Pierre parle de l'attitude du Maroc.
C'est ça, c'est ça.
Ouais,
c'est
sur la suspension du laissez-passer consulaire.
C'est par rapport à l'Algérie, par rapport à la visite de Emmanuel Macron en Algérie.
Attendez. Serge Lama.
Ça me semble être par rapport à la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. On sait que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont complexes. Et c'est un signal envoyé par les Marocains par rapport au geste qu'a fait Macron à l'égard de l'Algérie.
Vous pensez, Serge Lama?
En tout cas, c'est ce qui est dit. Mais moi, enfin, je ne suis pas spécialiste. Moi, je suis juriste. Hein,
oui, c'est vrai. Vous êtes juriste. Dans tous les cas, l'imam Iqiyoussen, lui, ne peut pas, c'est ce que vous dites. Et vous rappelez, Serge Lama, il ne peut pas revenir en France. Ou alors, il est arrêté.
S'il vient en France, effectivement, pour le coup, il est en infraction, donc il pourrait être interpellé et placé en soit éventuellement poursuivi ou placé en rétention.
C'est ce que dit la loi.
Oui, là, il n'y a aucun doute.
En rétention, et une fois en rétention, que se passe-t-il pour lui?
Il est éloigné, s'il a laissé passer consulaire, on tourne un peu en rond, hein, je suis désolé, mais... Donc, il a besoin, les autorités françaises ont besoin d'un laissé passer consulaire.
Et voilà, donc s'il revient en France, il reste en rétention.
Non, il ne restera pas en rétention. On ne peut pas rester
pas trop longtemps, en rétention. Pas trop longtemps.
Assigné à résidence, il y a un cas qui existe déjà en France, c'est Kamel Daoudi qui est assigné à résidence depuis une dizaine d'années maintenant.
On va prendre Luc. Nous avons récupéré Luc. Bonjour Luc. Luc ? Bien, nous avons un problème avec le téléphone de Luc, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde dit qu'il est passé en Belgique. Mais enfin, ça, personne ne le sait, Serge Lama.
Non, on ne le sait pas, mais tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui parlait du Nord, enfin Darmanin d'ailleurs, mais je suis aussi originaire du Nord, je vous assure qu'elle est en Belgique quand vous êtes à Roubaix, c'est assez simple en fait, hein, ou à Tourcoing, ou à Maubeuge.
Voilà, il habitait à côté de Denain, il était à quelques kilomètres de la frontière belge.
Exactement, donc dans ce cas-là, c'est assez logique s'il cherchait à exécuter son arrêté et à aller juste en Belgique. Après, je ne sais pas quelles sont ses relations avec la Belgique, est-ce qu'il a des membres de famille, etc.
Bien sûr. Mais Serge Lama, s'il est en Belgique, est-ce que la France peut faire quelque chose, engager une action diplomatique pour le récupérer? Pour le retrouver?
Monsieur Darmanin a dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, qu'il ne souhaite pas le récupérer. Donc, il n'y a pas de procédure pénale.
Donc, si j'ai bien compris, Serge Lama, le gouvernement français est très content qu'il soit parti en Belgique.
C'est quelque part, ça devient un problème belge. Alors après, le gouvernement a dit qu'il y aurait de la coopération. Donc, on l'a inscrit sur le système d'information Schengen, sur le fichier des personnes recherchées, puisqu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Et donc, on peut donner des informations au gouvernement belge pour simplifier la procédure d'éloignement à partir du territoire belge.
Mais les Belges ne nous le renvoient pas s'ils le retrouvent.
Il pourrait tenter de le faire, puisqu'il vient de France, et donc dans le cadre du système Schengen, il pourrait être envoyé vers la France, mais les Français peuvent très bien dire il a un diserbe en France, on ne souhaite pas le reprendre.
Nous ne souhaitons pas le reprendre. Et à ce moment-là, ce sont les Belges qui se débrouillent avec lui.
Exactement, et avec les autorités marocaines.
Bon, j'ai vu que d'autres imams l'avaient soutenu, Serge Lama.
Vraiment, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Bien. Je suis désolé, je vais pas ni sur Israël, ni sur les autres.
Bien. Dans tous les cas, vous êtes spécialiste de toutes les questions juridiques. Vous l'avez fait. Merci beaucoup. Spécialiste de droit public. Je rappelle que vous enseignez le droit public à Grenoble. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. J'ai rectifié, Serge Lama. J'ai volontairement rectifié. Bien. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous.
Au revoir.
Il est 12h23. Cette affaire d'Imam Iqiyoussen vous fait réagir. Vous appelez, vous n'hésitez pas, 826-300-300. Je rappelle ce que nous allons faire. C'est l'occasion ou jamais, l'émission se termine. Je rappelle ce que nous allons faire tous les jeudis. Tous les jeudis, nous allons vous proposer un jeudi politique. Un jeudi politique. Et d'ailleurs, je vous annonce que dès la semaine prochaine, nous aurons une affiche, puisque Émeric Caron, qui est député de la NUP, sera face à Robert Ménard, qui est le maire de Béziers. Sur les questions, une question, et pas que sur cette question, mais sur une question essentielle, qui est la corrida. Vous savez que Émeric Caron veut interdire, il va déposer d'ailleurs une proposition de loi pour interdire, faire interdire la corrida. Alors Robert Ménard, est maire de Béziers, évidemment, est opposé à toute interdiction de la corrida. J'en ai même parlé avec lui, même si Robert Ménard défend la condition animale. Émeric Caron, lui, est catégorique. Il faut interdire la corrida. Nous les aurons face à face jeudi prochain. Ne ratez pas ce rendez-vous parce que ça va être très intéressant. Puis évidemment, je ne parlerai pas que de la corrida, je déborderai sur d'autres sujets d'actualité. Tous les jeudis, donc, nous aurons 2 heures de politique. Et j'espère que vous allez intervenir au 0826-300-300, que vous allez donner votre avis. D'ailleurs, tous les jours, faites-le, 10h30, midi et demi, vous êtes prioritaire, vous êtes là avec nous, vous êtes là pour venir participer. La porte est ouverte, je le dis tous les jours, la porte est ouverte. Retrouvez l'émission en podcast si vous ne pouvez pas l'écouter pour une raison ou une autre. Vous n'avez pas de fréquence à disposition, de fréquence FM, donc c'est pas compliqué. Vous retrouvez l'émission podcast sur sudradio.fr. Vous allez sudradio.fr et vous réécoutez l'émission. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre application Sud Radio. Vous mettez l'application sur... allez-y, chargez l'application. Et sur votre iPhone, ou sur votre téléphone portable, hein, je dis iPhone parce que j'ai un iPhone, mais tous les autres téléphones, évidemment, nous permettent, avec l'application Sud Radio, vous permettent d'écouter l'émission. Vous pouvez aller aussi sur notre chaîne YouTube. Vous êtes près de 700 000, je dis bien près de 700 000, à nous suivre tous les jours. Et sur Facebook, en live, tous les jours à 10h30. N'hésitez pas à nous suivre non plus sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Et bien sûr, vous continuez à nous écouter sur la FM et en DAB+. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de participer avec nous à ces émissions. C'est un plaisir d'être là. Nous nous retrouverons demain à partir de 10h30 sur Sud Radio jusqu'à midi et demi. À demain, 12h26. Vous allez retrouver André Bercoff dans un instant.